Bien, donc nous poursuivons notre parcours japonais en quelque sorte avec cette seconde présentation par le professeur Miura Nobutaka, qui est une figure connue de beaucoup d'entre nous, non seulement parce que de nombreux collègues, étudiants, amis sont présents dans la salle aujourd'hui, mais aussi parce qu'il nous a déjà fait l'honneur et l'amitié de venir faire deux conférences au collège il y a un peu plus de 3 ans, en février 2013. Et aujourd'hui, donc, le professeur Miura est professeur émérite de l'université Chuo de Tokyo et administrateur délégué de la maison franco-japonaise à Tokyo. Alors, sa position dans une institution comme la maison franco-japonaise, dont je rappelle qu'elle a été fondée en partie par Paul Claudel et on pourrait dire capitaliste japonais, Shibuzawa Eichi. Donc, cette maison franco-japonaise donc, illustre bien à elle toute seule tout le parcours et le destin de Miura-san, si je me permets de l'appeler comme ça, entre le Japon et la France, et le véritable pont qu'il incarne entre les deux. En effet, dès ses études universitaires à l'université de Tokyo, le professeur Miura s'est consacré à la langue et à la littérature française. Et on pourrait dire presque que pour Miura-san, la France est une histoire d'amour, hein, en quelque sorte. Hein. Bon. Il a ensuite partagé sa carrière d'enseignant-chercheur entre le Japon et la France. Il faut préciser que en France, il ne s'est pas cantonné à Paris, mais il a enseigné dans différentes régions de France, ainsi que en Belgique et en Suisse. Il a même poussé la curiosité jusqu'à aller en fait dans les Antilles françaises. Hein. Alors, le professeur Miura n'est pas seulement l'un des meilleurs spécialistes de la France au Japon, c'est aussi un intellectuel japonais engagé. Tout à l'heure, le professeur Murthy nous parlait de Takeuchi Yoshimi, qu'il a présenté comme un intellectuel engagé. Là, nous en avons un autre, donc toujours bien vivant, à l'esprit extrêmement ouvert et un défenseur convaincu des valeurs héritées des Lumières françaises, c'est-à-dire des valeurs démocratiques et républicaines. Et avec le professeur Higuchi Yoichi, qui a également été conférencier invité du Collège de France, le professeur Miura a été activement engagé dans le récent débat public au Japon sur la volonté de l'actuel gouvernement Abe de modifier donc la constitution japonaise en s'en prenant notamment au fameux article 9 et en essayant d'aller dans le sens d'une sorte de remilitarisation du Japon. Et donc le professeur Higuchi et le professeur Miura donc, se sont publiquement donc, opposés à cette initiative. Alors les travaux et les publications du professeur Miura, qui seraient trop longs de mentionner ici, témoignent également de son souci d'établir le lien entre des cultures différentes, cultures qui ne se cantonnent pas d'ailleurs à la France et au Japon, et qui tentent de privilégier une triangulation, ça c'est un terme qu'affectionne Miura-san, donc une triangulation qui pourrait aussi, pourquoi pas, inclure la Chine, ce qui apparaît comme évidemment un enjeu important dans le contexte géopolitique actuel. Et ces publications attestent de son intérêt pour des penseurs politiques emblématiques de l'esprit des Lumières, comme Rousseau et Tocqueville, du côté européen, mais aussi du côté japonais, donc Nakae Chomin, né en 1847 et mort en 1901, et Kato Shuichi, né en 1919 et mort en 2008, donc deux intellectuels japonais dont il nous a parlé la dernière fois, ainsi que Maruyama Masao, donc né en 1914 et mort en 1996, il y a tout juste 20 ans, dont il va nous parler maintenant. Et je rappellerai, pour faire le lien avec l'exposé précédent, que Takeuchi Yoshimi, donc, qui est né en 1910 et mort en 1977, dont vient de nous parler Viren Murthy, est un contemporain, donc exact, de Kato et de Maruyama. Donc la parole est à vous.
Bien. Je ne peux commencer mon exposé sans remercier le professeur Han Tian, qui me fait l'amitié en m'invitant de nouveau dans ce lieu prestigieux de la recherche et de l'enseignement. Vous vous demanderez sans doute pourquoi un Japonais qui n'est pas sinisant ni sinologue est devant vous, invité à intervenir dans la chaire d'histoire intellectuelle de la Chine. C'est peut-être parce que j'ai eu le plaisir d'accueillir deux fois Madame Chan à la Maison franco-japonaise de Tokyo en qualité de responsable de programmation scientifique de cette fondation, vieille de plus de 90 ans. Pour la première fois en avril 2013 et pour une seconde fois, c'est tout récent, en mars 2016, donc en mars dernier. En avril 2013, le professeur Han Tian est intervenu à la Maison franco-japonaise sur la question fondamentale de la Chine pense-t-elle l'universel, avec point d'interrogation, dans le prolongement de sa leçon inaugurale au Collège de France intitulée « La Chine pense-t-elle ?» Tout court. À moins que je ne l'ai mal entendu, elle a analysé d'une manière critique et dans la perspective historique de longue durée le renouveau du confucianisme en Chine d'aujourd'hui comme l'expression de la volonté du rayonnement culturel de l'empire du milieu retrouvé, qui a retrouvé sa confiance en soi. Avril 2013, c'est un mois après l'élection de Xi et comment prononce-t-on en français Xi Jinping comme président de la République populaire de Chine, et trois mois après le retour au pouvoir du parti conservateur de Abe Shinzo au Japon, au moment où la tension montait entre les deux pays en raison du conflit territorial des îles Senkaku, en chinois Diaoyu. Mais bien entendu, on a entendu aucune allusion au sujet des relations diplomatiques sino-japonaises sur la bouche de la conférencière qui a traité le sujet qu'elle a choisi très dignement, très doctement, dans un cadre strictement scientifique et académique. Dans sa leçon, elle a accepté notre invitation. Donc, dans le cadre du grand débat de la Maison franco-japonaise de 2013, un des temps forts de notre maison que j'avais programmé à partir de 2001 en collaboration avec mon ami Pierre Suiri, directeur français d'alors à la Maison franco-japonaise, en invitant justement Kato Shuichi, la conscience du Japon de l'après-guerre, et Édouard Glissant, grand poète et penseur antillais, à s'entretenir sur le thème de globalisation ou créolisation, choc des civilisations ou dialogue des cultures. Ironie du sort, c'est juste 6 semaines avant les attentats du 11 septembre à New York. Depuis, nous avons eu l'honneur et le plaisir d'accueillir, par exemple, Pierre Nora de l'Académie française ou Pierre Rosanvallon, professeur au Collège de France, ou encore Jean-Pierre Chevènement comme penseur plutôt que homme politique de la Ve République. Et avec ces deux derniers, c'est le professeur Higuchi Yoichi de l'Académie du Japon et président de la Maison franco-japonaise, ancien plutôt, qui s'est entretenu sur un pied d'égalité. Je crois qu'il y en a beaucoup parmi vous qui ont assisté à deux conférences de cet éminent constitutionnaliste que Madame Chen a invité en juin 2014 au Collège de France. Et je ne peux m'empêcher d'ajouter que M. Higuchi a été le vieux sage intellectuel, 81 ans cette année, le plus lu, le plus écouté, le plus suivi l'an dernier dans le débat public et dans le mouvement citoyen contre les nouvelles lois de défense jugées inconstitutionnelles par la quasi-totalité des spécialistes en la matière. Par ces nouvelles lois de défense, le Japon a abandonné son pacifisme défini par l'article 9 de la Constitution de 1946 en renforçant l'alliance militaire avec les États-Unis. Comme pour préparer son engagement plus actif, M. Higuchi a publié à la fin 2014 un petit livre, mais très important, intitulé « Kato Shuichi et Maruyama Masao, deux points, savoir et individu dans le Japon moderne ». Et ces sous-titres, avec les noms des deux grands intellectuels du Japon de l'après-guerre, comme référence majeure, qui m'a inspiré le sujet de mon exposé d'aujourd'hui. Je vous prie de m'excuser pour une parenthèse trop longue que je ferme ici. J'aurais aimé simplement rappeler à Madame Chen dans quel cadre de programme de débat d'idées elle a bien voulu accepter d'intervenir en mars 2013. Un des facteurs qui l'ont motivé à revenir au Japon, parce que ce n'était pas votre première visite, et sans doute la publication de la traduction en japonais de son livre majeur sur l'histoire de la pensée chinoise, traduite en japonais en 2010, Chugoku Shisoshi. Elle aurait été certainement très intéressée à connaître le sort qui est réservé à son livre au Japon et le retour de l'expérience de ses traducteurs. À la sortie de sa conférence, suivie d'une discussion nourrie avec ses trois traducteurs, dont professeur Nakajima, elle a prononcé dans son mot de remerciement une expression fort heureusement trouvée, celle de triangulation des langues. L'expression est fort heureuse parce qu'elle me semble avoir une vertu heuristique aussi importante que la triangulation des cultures, la méthode du comparatisme culturel théorisée et pratiquée par Kawada Junzo, anthropologue japonais, africaniste de formation méthodologique française, intellectuelle française, et grand ami de feu Claude Lévi-Strauss, professeur au collège, qui a visité plusieurs fois le Japon et laissé pas mal d'écrits sur la culture japonaise. La comparaison est mieux faite à trois qu'à deux pour mieux identifier soi par rapport à l'autre en sortant de l'opposition stérile entre l'ethnocentrisme et l'exotisme ou entre l'occidentalisme et l'orientalisme. Pour nous libérer de carcans de bilatéralisme culturel, il faut introduire un troisième terme de comparaison. Dans le cas de Kawada, c'était l'Afrique noire qui est à la fois loin de la France et du Japon. S'agissant de la triangulation des langues, la traduction en japonais d'un livre français sur la pensée chinoise représente bien l'opération bien difficile mais fructueuse, puisqu'il s'agit d'une étude magistrale des textes classiques chinois effectuée selon la méthode philologique ou d'analyse française et traduite ensuite en japonais. An Chen, traductrice des entretiens de Confucius, est mieux placée que quiconque pour se rendre compte de la difficulté de la traduction de son Histoire de la pensée chinoise, non pas dans une autre langue européenne proche du français, comme l'italien par exemple, mais dans une autre langue orientale voisine du chinois, mais non dénuée de faux amis. Traduire son livre en japonais, c'est comme si on voyageait de Pékin à Tokyo via Paris au lieu d'aller directement de Pékin à Tokyo, parce qu'il fallait reconstituer en chinois en traduisant sa traduction en français des concepts ou des textes chinois, n'est-ce pas?
Donc, là aussi, on est dans le casse-tête, là.
Casse-tête. Mais ce n'est pas tout. Si An Chen s'intéresse particulièrement à la version japonaise de son livre, c'est parce que, et c'est très bien, qu'il y a une longue tradition d'études chinoises et confucéennes au Japon, et que le japonais, la langue japonaise, sans appartenir à la même famille linguistique que le chinois, a emprunté au chinois son système d'écriture en idéogramme depuis fort longtemps, et enfin, qu'à l'époque moderne, la plupart des concepts philosophiques occidentaux sont passés en chinois moderne via leur traduction d'abord en japonais, effectuée à l'aide des idéogrammes chinois. La triangulation des langues, chinois, français et japonais en l'occurrence, représente à ses yeux le moyen formidable pour étudier la circulation des idées par la translation. Si bien que Madame Chen s'est proposée à revenir à Tokyo 3 ans plus tard, en mars dernier donc, pour donner 2 conférences avec le professeur Watanabe Hiroshi comme discutant, la première sur le confucianisme d'hier et d'aujourd'hui en Chine et au Japon, et la seconde sur l'invention japonaise de la philosophie chinoise, question de la traduction. À propos du rôle de la traduction dans la modernisation du Japon, je vous envoie à l'entretien de très haut niveau entre Maruyama Masao et Kato Shuichi, enregistré vers 1990 et publié dans la collection Iwanami Shinsho sous le titre de Honyaku to Nihon no Kindai, traduction et la modernité japonaise. Depuis l'ouverture du Japon, forcée par les puissances occidentales, qui devait aboutir à la révolution de Meiji de 1868, la traduction des textes de tout genre de langues européennes a été l'enjeu capital pour la modernisation du Japon par l'appropriation de la civilisation occidentale. Le mot d'ordre alors était l'esprit japonais, la technique occidentale. Mais on n'introduit pas le savoir scientifique et technique sans introduire en même temps le savoir philosophique qui le sous-tend. Dans le domaine de la politique, les idées de démocratie ou de souveraineté de peuple sont introduites dans l'Empire du Japon essentiellement par la traduction du contrat social de Jean-Jacques Rousseau en 1882 par Nakae Chomin, un des philosophes majeurs des Lumières japonaises, à côté de Fukuzawa Yukichi, son aîné de 12 ans. Le hasard a voulu qu'il soit mort, donc Nakae Chomin et Fukuzawa, ils sont morts tous les deux en 1901. Et cette coïncidence ne peut pas ne pas rappeler que Rousseau et Voltaire, deux grands des Lumières françaises, sont morts tous les deux en 1778, d'autant plus que l'on affirme souvent au Japon que Fukuzawa est le Voltaire du Japon et que Nakae Chomin, le Rousseau de l'Orient. Pour définir rapidement l'orientation philosophique de ces... Pourquoi je parle de Fukuzawa et de Nakae Chomin avant de parler de Maruyama et Kato, c'est parce que, grosso modo, Maruyama s'identifie à la pensée de Fukuzawa et Kato s'identifie à la pensée ou au parcours de Nakae Chomi. Donc, Fukuzawa Nakae, ce sont deux figures des Lumières de Meiji, et Maruyama Kato sont deux figures des Lumières de l'après-guerre. Bon, ça va ? Bon, pour définir rapidement l'orientation philosophique de ces deux penseurs de la démocratie, je dirais que si Fukuzawa, le père des études anglaises, représente le national-libéralisme, Nakae Chomin, le père des études françaises, lui représente le national-républicanisme au sens noble du terme, hein, sans connotation péjorative qu'on accorde souvent à ces deux termes. Pourquoi j'ajoute l'adjectif national ? C'est parce qu'ils ont pensé tous les deux à l'avènement de la démocratie au Japon dans sa phase de construction comme un État-nation moderne, unifié et indépendant. Je cite, pour illustrer la pensée de Fukuzawa, je cite trois phrases célèbres de Fukuzawa, connues pour son plaidoyer pour la civilisation, Bunmei Kaika, et pour la sortie de l'Asie, ou pour l'abandon de l'Asie. Première phrase, les cieux ne créent pas un homme au-dessus des autres hommes, ni en dessous des autres hommes. Deuxième phrase, au Japon, il y a certes un gouvernement établi, mais pas encore une nation. Troisième phrase, pas un État indépendant sans individus vraiment indépendants, autonomes et indépendants. Quant à Nakae Chomin, je signale d'abord que Chomin est un nom de plume qui veut dire une multitude de gens de peuple. C'est un pen name, nom de plume. En raison de sa traduction commentée du contrat social, qui a largement contribué au mouvement pour la liberté et les droits du peuple des années 1980. Ce mouvement revendiquant l'ouverture du Parlement national a accéléré l'élaboration de la Constitution de Meiji, promulguée par l'empereur en 1889, et la mise en place de la Diète impériale l'année suivante. La Constitution de 1889, c'est facile à mémoriser cette date, parce que cette Constitution est faite 100 ans, exactement 100 ans après la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Chomin avait traduit la Déclaration des droits de 1793, dite jacobine, mais la charte impériale japonaise de 1889 était d'inspiration du modèle prussien ou bismarckien, étant donné la similitude de régime impérial entre l'Allemagne et le Japon. Rappelons que l'unification de l'Allemagne n'a pas été faite avant 1871, 3 ans après la restauration de Meiji. À ce stade de mon exposé, je voudrais attirer votre attention que les mots pour dire civilisation, gouvernement, nation, indépendance, liberté, droit, constitution, même société, tous ces mots ont dû se faire inventer au cours des premières années de l'ère Meiji à l'aide des caractères chinois. Pourquoi à l'aide des caractères chinois ? C'est parce que le japonais traditionnel, la langue japonaise traditionnelle, ne disposait pas de la panoplie de vocabulaire capable de traduire les concepts de la pensée occidentale. Bon, je saute un peu. Ainsi, bon. Nakae Chomin, qui a bien étudié la philosophie française, a déclaré qu'au Japon, il n'y a pas de philosophie digne de son nom. Et c'est pourquoi il a traduit le livre de Rousseau en chinois classique, et sa traduction a contribué, dans une certaine mesure, à faire connaître la pensée du philosophe genevois en Chine. Ainsi, on pourra étudier utilement la question de traduction dans la perspective de triangulation des langues, puisque la plupart du vocabulaire de philosophie occidentale est d'abord traduit en japonais, a commencé par le mot philosophie, tetsugaku, et ensuite en chinois moderne. Ce qui accroît l'intérêt du cas de Nakae Chōmin, c'est que ces deux ouvrages, il n'est pas un simple traducteur, il a produit des écrits, et des réflexions importantes. Donc, l'intérêt du cas de Nakae Chōmin, c'est que ces deux ouvrages sont disponibles en français, traduits en français, depuis plus de 10 ans, et qu'ils offrent des matériaux intéressants aux études sur la circulation des idées dans la perspective dialogique de l'aller et de retour. C'est exactement... Oui, une faute. Donc la triangulation entre chinois, français et japonais me paraît particulièrement importante aujourd'hui pour ouvrir une brèche dans le dialogue des sourds entre les dirigeants chinois et japonais qui semblent céder au jeu dangereux de surenchère des nationalismes. Le français ne prête-il pas servi de langue de médiation pour les milieux cultivés et chinois et japonais qui partagent la langue française et la culture humaniste? C'est avec ce vœu pieux que j'ai parlé du rôle des intellectuels francophones dans le Japon moderne et contemporain, ici au Collège de France, en février 2013, en choisissant Nakae Chōmin pour l'époque Meiji et Kato Shuichi pour l'époque de l'après-guerre, deux figures qui reconnaissaient tous les deux une grande dette du Japon envers la civilisation chinoise. Kato Shuichi est mort en décembre 2008, mais il a demandé à son épouse, juste avant de mourir, de mettre 3 livres dans le cercueil, dans son cercueil, Bible, traduction en français, Bible, et la critique de la raison pratique dans la version originale allemande de Emmanuel Kant, et troisième, c'est les entretiens de Confucius. Ça, ces 3 livres représentent bien la source de son inspiration, de sa culture, cosmopolite, très ouverte au monde extérieur. Enfin, pour ceux qui n'ont pas encore lu Dialogue politique entre 3 ivrognes de Nakae Chōmin, déjà disponible en français, je voudrais citer un passage de Maruyama Masao qui présente l'intrigue du livre dans l'article de Maruyama Masao sur les intellectuels dans le Japon moderne, justement, traduit en français dans 100 ans de pensée au Japon. Hein. Alors, je cite Maruyama, qui présente l'intrigue du livre de Nakae Chōmin, Dialogue politique entre 3 ivrognes. L'auteur met en scène 3 personnages, le gentilhomme occidentalisé, le vaillant guerrier et Maître Nankai, trois protagonistes. Rassemblés chez Maître Nankai, ils passent toute la nuit à boire et à discuter de politique. Chacun défend une idéologie différente et ils se retrouvent souvent à soutenir des idées extrêmement opposées. Grosso modo, le gentilhomme occidentalisé représente la démocratie radicale, pacifiste inconditionnel, partisan de la suppression totale de l'armée. Entre parenthèses, ce gentilhomme occidentalisé est un grand lecteur pour la paix perpétuelle de Emmanuel Kant. Deuxième protagoniste, le vaillant guerrier, s'oppose de front au gentilhomme occidentalisé en faveur du pouvoir fort. Il entrevoit la vocation du Japon dans une expansion militaire sur le continent chinois. Quant à Maître Nankai, troisième protagoniste, tout en essayant d'harmoniser la discussion entre les 2 jeunes amis, il s'en remet pour conclure à un gouvernement constitutionnel à l'anglaise ainsi qu'à l'intérêt national modéré. Tous 3 se séparent finalement sans avoir changé d'avis, mais à travers leurs discussions, Nakae Chomi nous offre une magnifique perspective plongeante sur les principales options entre lesquelles le Japon allait être pressé de choisir à cette époque. À cette époque, c'est-à-dire, le livre est publié en 1887, en l'an 20 de l'ère Meiji. Donc, Maruyama remarque ainsi que dans les années 1880, il existait encore réellement un état d'esprit tel que des tenants d'idéologies aussi différentes puissent se réunir afin de débattre toute une nuit. Cependant, une fois la nuit passée, nos trois héros ne se reverront plus une seule fois. Donc, ce dénouement, Maruyama dit, ce dénouement est tout à fait symbolique de l'itinéraire des intellectuels du Japon moderne qui se sont constitués en une communauté intellectuelle seulement trois fois au cours d'un siècle et demi. La séparation des trois ivrognes de Nakae Chomin, qui ne se retrouvent plus, est un signe de la dissolution de la communauté des intellectuels qui a existé au cours de la première moitié de Meiji, donc des années 1870-1880. La deuxième période est celle des années 1920, marquée par la domination du marxisme autour de 1930 dans les milieux intellectuels qui s'essoufflent, cette domination du marxisme en sciences humaines, sciences sociales, s'essouffle par la répression policière provoquant la conversion massive des communistes à partir de 1933. La troisième période, au cours de laquelle on retrouve la constitution d'une communauté des intellectuels, c'est donc la troisième période est celle de l'après-guerre, des années 1945 à 1960, disons, où les intellectuels se sont constitués ce que Maruyama appelle communauté du remords, du fait qu'ils n'ont pas pu résister à la montée en puissance de l'ultranationalisme du régime totalitaire pendant la guerre de 15 ans. La Seconde Guerre mondiale pour le Japon représente une guerre de 15 ans à partir de l'invasion en Manchurie en 1931. Donc, cette communauté de remords, c'était un ressort de constitution de cette communauté des intellectuels qui commence à analyser pourquoi le Japon est devenu une puissance fascisante, militariste. Trois intellectuels nés dans les années 1910, je vais parler maintenant de Takeuchi, Maruyama et Kato, trois intellectuels nés dans les années 1910 qui avaient respectivement 35 ans, 31 ans et 26 ans quand la guerre de 15 ans est finie en 1945, nommément Takeuchi Yoshimi, Maruyama Masao et Kato Shuichi, appartiennent justement à cette communauté du remords. Comme je suis, occidentaliste, entre guillemets, je ne suis pas un bon lecteur de Takeuchi, spécialiste des études chinoises. Donc, j'étais très heureux d'écouter la conférence de Viren... comment prononce-t-on ? Marty ? Oui, Viren Marty, sur Takeuchi, pour me faire une idée de la discussion entre ces trois intellectuels de gauche, de sensibilités différentes, certainement, mais liées par une sympathie amicale réciproque. Pour conclure mon exposé, j'ai encore 20 minutes, c'est ça ? Ce n'est pas le moment de conclure, mais pour continuer mon exposé, je voudrais présenter ici rapidement les notes que j'ai rédigées à l'attention de M. Michel Vinocq, notre invité de l'an dernier pour le grand débat de la Maison franco-japonaise en souhaitant que l'auteur, un grand historien, l'auteur de « Siècle des intellectuels » en France, ait un minimum de connaissances de l'histoire des intellectuels au Japon pour entamer la discussion avec ses interlocuteurs japonais. Bon, un, on distingue, donc c'est une présentation un peu scolaire, hein, on distingue trois âges de l'histoire du Japon moderne selon notre historiographie. Première période dite « Early Modern », Kinsei, c'est l'époque de Edo, 17e siècle jusqu'à la révolution de Meiji. Deuxième période dite « moderne », c'est Kindai, c'est de la révolution, révolution ou restauration de Meiji jusqu'à la défaite de l'Empire du Japon dans la Seconde Guerre mondiale, donc 1945. Troisième période dite « contemporaine », on appelle en japonais « Gendai », c'est le Japon de l'après-guerre et même de l'après-guerre froide, parce que l'empereur Hirohito est mort justement en 1989. Kinsei, Kindai, Gendai. Et ça ne se recoupe pas avec la périodisation des temps historiques dans l'historiographie chinoise, je crois. Bon, au Japon, brosser rapidement le tableau de l'histoire des intellectuels japonais, il faut commencer par le XVIIIe siècle. Au Japon du XVIIIe siècle, face aux études chinoises ou confucéennes déjà prédominantes, naissent les études nationales ou nativistes, ces études philologiques des classiques japonais, d'une part, et les études hollandaises, d'autre part. Pourquoi les études hollandaises? C'est parce que, comme vous savez, les Pays-Bas étaient le seul pays autorisé à commercer avec le Japon au cours de l'époque d'Edo, donc pendant la période de fermeture du pays. Les études occidentalistes se développent rapidement après l'ouverture du pays, essentiellement en trois langues européennes, anglais, français et allemand. Ensuite, la modernisation du Japon doit beaucoup aux efforts massifs de traduction, c'est déjà dit, donc je passe. Nishikawa Nagao, historien du courant postcolonial, justement, et fondateur des études critiques de l'État-nation, Nation-State Studies. Le mot équivalent en français n'existe peut-être pas. Mais Nishikawa Nagao, historien de courant postcolonial et fondateur des études critiques de l'État-nation, relève deux tropismes contradictoires chez les intellectuels du Japon moderne. Occidentalisme ou nationalisme, modernisme ou traditionalisme, ouverture à l'extérieur ou ouverture à l'Occident ou repli identitaire, universalisme ou particularisme. Occidentalisme est un mot rare, peut-être, dans le vocabulaire français. Entendez le mot comme le pendant de l'orientalisme. Donc, il y a l'école des langues orientales, les chercheurs des civilisations des langues orientales se nomment orientalistes, n'est-ce pas? Donc, dans le sens inverse, tous les chercheurs japonais qui étudient les civilisations, les littératures, l'histoire, de l'Occident s'appelle occidentaliste. Et donc le mot occidentaliste n'est pas utilisé en français dans ce sens-là. Bon, donc la plupart des intellectuels progressistes étaient occidentalistes au Japon. Hein. Cette série d'opposition entre occidentalisme ou nationalisme, modernisme, traditionalisme, etc., se retrouve, je crois, chez les intellectuels allemands qui étaient tiraillés entre les Lumières à la Kant et le romantisme allemand à la RDR, entre la civilisation et la culture, entre deux notions de la nation politique et civique, et la nation culturelle et ethnique. Donc, je crois que les intellectuels allemands du XIXe siècle étaient tiraillés entre ces deux pôles. comme les intellectuels japonais. Et Russie aussi, en Russie aussi, on retrouve le clivage entre les modernistes pro-européens et les nationalistes slaves. Il s'agit d'une schizophrénie propre aux intellectuels des nations dites latecomers en anglais, qui arrivent donc avec retard dans la course de la modernisation par rapport aux civilisations avancées, aux nations avancées comme Angleterre et la France. Par ailleurs, entre l'occidentalisme et le nationalisme, je parle de cas de Japon, hein, entre l'occidentalisme et le nationalisme, il y a justement l'asiatisme, dont Takeuchi Yoshimi a très bien analysé l'ambiguïté et l'évolution problématique. D'un côté, d'un côté, il y a dans un premier temps un asiatisme révolutionnaire qui privilégie la solidarité du Japon avec ses voisins asiatiques en faveur des réformes démocratiques de ces derniers. Par exemple, je ne sais pas comment prononce-t-on, Sun Yat-sen a mis en place donc une association, un club de, pour la révolution chinoise à Tokyo 1905 avec l'aide des asiatistes japonais. C'est la première version de l'asiatisme, donc en faveur de la solidarité asiatique. Mais de l'autre côté, il y a dans un deuxième temps un asiatisme, disons, interventionniste qui justifie l'expansion militaire du Japon en Asie au nom de la libération des peuples asiatiques dominés par, subjugués par les puissances occidentales. Donc le Japon va jouer le rôle de libérateur des peuples opprimés asiatiques. Mais ça se traduit par donc, les actions militaires d'expansion envers le continent. Il serait donc intéressant et utile de comparer l'asiatisme japonais au pan-germanisme ou au pan-slavisme. Je ne suis pas capable de le faire, mais il serait intéressant de faire cette comparaison triangulaire. On constate chez certains intellectuels japonais, au niveau individuel, le basculement de leur position de occidentalisme en nationalisme. On constate aussi dans l'histoire de la modernisation du Japon, donc au niveau national, à l'échelle nationale, le cycle d'alternance entre l'ouverture et le repli, ou pour mieux dire, entre le désir d'occidentalisation et le besoin de l'affirmation de l'identité nationale. L'originalité de la thèse salutaire de Kato Shuichi sur le caractère hybride de la culture japonaise, publiée en 1955, au retour de son voyage d'études en France pendant 3 ans. Donc, l'expérience française, son séjour en France pour étudier sur place l'histoire et l'état actuel de la civilisation occidentale, non seulement en France, mais en Allemagne, en Europe en général. Ça, c'est capital dans le cas de Kato. Donc, il a publié donc, en 1955 le caractère hybride de la culture japonaise. Donc, l'originalité de sa thèse réside justement dans sa critique à la fois de l'occidentalisme béat et naïf et du nationalisme culturel qui essentialise l'identité japonaise. Donc c'est une bataille sur 2 fronts. Il faut partir du constat du fait du métissage culturel qui s'est effectué aux couches profondes de la société japonaise pour construire son avenir. Nous sommes en 1955, hein, 10 ans après la défaite du Japon, hein, la destruction complète de Japon par la défaite. Cette thèse de l'intellectuel le plus cosmopolite du Japon de l'après-guerre ne relève pas du discours sur la japonité, dite Nihonjinron, ni du discours de modernisme occidentaliste. Convaincu des valeurs universelles de l'humanisme et des droits de l'homme, Kato a été, d'un bout à l'autre, l'avocat de la diversité culturelle, sans tomber dans le leurre du relativisme culturel ni dans celui du chauvinisme national. Si Fukuzawa, faire un rapprochement entre Kato et Takeuchi à l'égard de jugement, évaluation de la teneur de grands colloques sur le dépassement de la modernité organisé en été 1942, donc quelques mois après l'attaque de Pearl Harbor. Hein. C'est un colloque dit maudit parce que c'est ce colloque qui a réuni une quinzaine d'intellectuels de premier rang de l'époque a été faite pour justifier l'engagement militaire, la guerre. Bon, et c'est le courant de pensée de philosophique de l'école de Kyoto et le courant mouvement littéraire de romantisme allemand. Ce sont deux groupes qui ont soutenu participé à ce colloque de dépassement de la modernité. Alors, si Fukuzawa et l'avocat de la civilisation et de la modernisation du Japon par l'occidentalisation, c'est, je cite un autre nom, c'est Yasuda Yojuro, qui est né en 1910 comme Takeuchi, hein, Yasuda Yojuro, le chef de file du romantisme japonais, qui revendique le retour à l'esprit proprement japonais en déclarant en 1935 la clôture de la modernisation par l'occidentalisation. Dans le célèbre colloque de l'été 1941 sur le dépassement de la modernité occidentale, bien sûr, les philosophes nationalistes de l'école de Kyoto sont formés par la philosophie allemande et les écrivains de la revue Bungakkai sont cultivés par la littérature française, comme Kobayashi Hideo, par exemple. Et les participants du romantisme allemand, le romantisme japonais, sont des ex-communistes qui ont abjuré le marxisme. Aucun participant ne se réclame de la pensée américaine. On est en été 1941. Hein. Avant la guerre, donc avant la Seconde Guerre mondiale, l'occidentalisme japonais visait essentiellement la civilisation de l'Europe occidentale. Et l'occidentalisme japonais est devenu, seulement après la guerre, le synonyme de l'américanisation ou l'américanisation des esprits, surtout après les années 1960. La pensée occidentale est profondément marquée par la tradition monothéiste judéo-chrétienne que la pensée japonaise ignore ou ne connaît pas de l'intérieur. Maruyama Masao fait remarquer dans son Iwanami Shinsho, Nihon no Shiso, Pensée japonaise, publié en 1961. C'était un livre culte de tous les étudiants des années 60. Hein, j'étais étudiant dans les années 60. Bon, Maruyama Masao fait remarquer, donc, dans son livre Pensée japonaise, l'importance de la venue du christianisme à l'époque de Meiji, d'abord, et l'importance de la venue du marxisme au début de Taisho, donc vers 1910, comme deux visions du monde, comme deux systèmes de pensée cohérentes, intégrales, totalisantes et exclusives. Et ce sont deux systèmes de pensée, ou théologiques, qui ont fait totalement défaut dans la tradition de la pensée japonaise. Par ailleurs, les premiers socialistes japonais ont été souvent chrétiens. Le Parti socialiste japonais est constitué dès 1901. Le manifeste du Parti marxiste est traduit au début du XXe siècle. Il faut remarquer aussi que les plusieurs œuvres complètes les premières œuvres complètes dans le monde de Marx Engels sont publiées en japonais entre 1928 et 1932, dont le premier tome est vendu en 150 000 exemplaires. Le débat sur le capitalisme japonais opposant deux écoles marxistes, Kozaha et Rōnoha, est bien connu. La littérature prolétarienne aussi a connu un essor dans les années 1920. Le Parti communiste japonais est fondé en 1922, bien sûr tout de suite interdite. Donc c'était un PC japonais a dû travailler clandestinement. Donc la littérature prolétarienne aussi a connu un essor dans les années 20 jusqu'à la répression policière de 1933-34. Encore 5 minutes. Je saute plusieurs passages. Si c'est un assemblage des notes en bas de page, en quelque sorte. Donc je saute quelques passages. Pour un peu de Coq-à-l'âne. Si l'affaire de Dreyfus est un moment fondateur dans la naissance des intellectuels en France, l'épisode qui noircit l'histoire des intellectuels japonais est l'affaire de crime de lèse-majesté de 1910, qui se conclut par la condamnation à mort des 24 socialistes anarchistes, dont 12 sont exécutés en janvier 1911. Cette affaire est appelée aussi l'affaire Kotoku, selon le nom de Kotoku Shusui, le fondateur du Parti communiste et l'auteur de L'impérialisme, le spectre du XXe siècle. Ce livre aussi est disponible en français. Donc, son livre sur l'impérialisme précède le livre de Lénine sur l'impérialisme. Et en plus, Kotoku Shusui est le disciple direct de Nakae Chōmin. Donc, on peut établir une sorte de généalogie de la pensée, pensée progressiste, radicale, de gauche, de Nakae Chōmin vers Kotoku Shusui. Il est connu aussi, Kotoku, donc, qui est pendu donc, dans cette affaire de lèse-majesté de 1910, Kotoku est connu aussi pour sa campagne contre la guerre russo-japonaise de 1904 à 1905. Il est supposé chef de complot d'assassinat contre l'empereur. Mais la ligne des droits de l'homme n'est pas créée au Japon. On n'a pas eu un Zola japonais, la répression policière étant tellement forte. En 1911, la Corée est annexée et la révision des traités inégaux signés en 1958 et enfin achevé et accompli. Donc la possession d'une colonie met le Japon sur le même rang des puissances occidentales. Donc en 1911, le Japon a enfin réussi à tout réviser, les traités inégaux avec les puissances occidentales qu'il était obligé de signer un demi-siècle avant. De la même manière, le Japon n'a pas connu un mouvement de résistance comparable à la résistance en France, étant donné que les forces démocratiques et antifascistes étaient jetées en prison et réduites au silence, d'où l'expression « la communauté du remords » selon Maruyama, qui s'établit entre les intellectuels au lendemain de la guerre de 15 ans. La responsabilité des intellectuels dans la guerre étant des sujets de débat les plus importants dans le Japon de l'après-guerre. Et le premier livre que Kato Shuichi a écrit au lendemain de la guerre, c'était justement la littérature de résistance, hein, étude de littérature de résistance française. Encore deux minutes. Bon, au sujet de post-colonialisme, je dirais que dans les réflexions des intellectuels japonais de l'après-guerre, il y a deux sujets qui ont fait défaut, qui n'ont pas fait l'objet de réflexions approfondies. Ce sont donc deux questions importantes qui ont échappé au débat de Japon de l'après-guerre. C'est d'abord la question du passé colonial et la question de la critique du stalinisme dans les camps marxistes. D'une part, l'empire colonial japonais s'est effondré d'un seul coup par la défaite du Japon en août 1945. Donc le Japon n'a pas connu l'épreuve des guerres coloniales, des guerres de décolonisation plutôt, qui ont tant tourmenté la France en Indochine et ensuite en Algérie jusqu'en 1962. Nous n'avons pas connu le manifeste des 121 ou les manifestations anti-OAS. Le Japon a perdu toutes ses colonies d'un seul coup en août 1945, donc, ce qui l'a dispensé de l'effort de décolonisation de l'esprit. Il a fallu attendre le coming out des ex-femmes de réconfort coréennes ou autres et l'arrivée du post-colonialisme au début des années 1990 pour remettre en question le passé colonial du Japon et ses séquelles qui pèsent très lourdement dans les relations avec nos voisins asiatiques. D'autre part, la critique du stalinisme dans le 20e congrès du Parti communiste soviétique et l'intervention soviétique en Hongrie en 1956, en même année, ont suscité peut-être moins de débats chez les intellectuels de gauche japonais qu'en France, excepté une frange d'extrême gauche anti-staliniste. Il en va de même pour le printemps de Prague de 1968. Kato Shuichi a fait un excellent reportage de cet événement. Il en va de même pour le printemps de Prague de 1968, étouffé par l'invasion des troupes de pacte de Varsovie, où il en va de même, donc moins de débats au Japon sur l'archipel de Goulag de Solzhenitsyn, publié à Paris en 1973. Le Japon est loin de l'Europe. Les intellectuels progressistes japonais ont trop longtemps nourri l'illusion du socialisme. À leur vue, l'assimilation du stalinisme au nazisme comme deux formes de totalitarisme, comme l'a fait Hannah Arendt, n'était pas si facile à accepter. Nous n'avons pas eu de penseurs de la démocratie antitotalitaire comme Claude Lefort ou Marcel Gauchet, peut-être excepté Maruyama Masao. C'est à cause de la paresse intellectuelle des socialistes que le Parti socialiste a perdu son audience électorale après le changement du nom en Parti social-démocrate en 1996 et à la suite de pas mal de transfuges qui ont rejoint le Parti démocrate. Dernière remarque sur le pacifisme. Donc, je fais mon exposé dans la perspective comparatiste France-Japon, comme histoire des intellectuels. Dernière remarque sur le pacifisme que les forces démocratiques japonaises défendent coûte que coûte, mais qui n'a pas de bonne presse en France, j'en ai l'impression, où le mot pacifisme signifie souvent la non-intervention, voire le défaitisme devant la menace étrangère. Le pacifisme n'est pas défendable dans l'opinion française à cause de traume de l'accord de Munich. Les Français auront du mal à comprendre le pacifisme affiché par l'article 9 de la Constitution japonaise. Dans le sens inverse, le Japon ne peut pas prendre pour sa politique de sécurité la dissuasion nucléaire à la française. Il faut signaler aussi la contradiction de pacifisme japonais qui pourrait paraître hypocrite dans la mesure où la sécurité japonaise est censée être garantie par le traité de sécurité nippo-américain et par le parapluie nucléaire américain. Le pacifisme japonais n'est pas fondé sur la neutralité armée comme c'est le cas en Suisse. À propos de donc sur le pacifisme, sur la politique de dissuasion nucléaire française, et Kato Shuichi et Oe Kenzaburo se sont montrés très critiques. Et pourtant, ce sont grands francophiles, francophones, beaucoup de sympathie envers la France, mais sauf sur ce point-là. Voilà. Merci beaucoup de votre attention.